VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Coup de théâtre au sommet arabo-africain qui se tient aujourd'hui à Malabo, en Guinée équatoriale, pour protester contre la présence d'une délégation du Front Polisario. Le Maroc et plusieurs pays alliés ont boycotté les rencontres. Claire Morin-Gibault.
C'est la présence de l'emblème de la République arabe sahraoui démocratique dans la salle qui a déclenché la furie des autorités marocaines. Elles ont dénoncé une entité fantoche et ont quitté la réunion. 8 pays arabes alliés lui ont emboîté le pas. Un coup d'éclat alors que le Maroc multiplie ses efforts pour réintégrer l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la même RASD. Rabat considère le Sahara occidental comme partie intégrante du royaume. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, milite pour l'indépendance de cette ancienne colonie espagnole et réclame un référendum d'autodétermination.
Cameroun, de violents heurts qui auraient fait 3 morts opposés lundi et mardi. De jeunes manifestants aux forces de sécurité à Bamenda, fief anglophone de l'opposition dans le pays. Les détails avec Nani Talani.
Parmi les 3 victimes, 2 auraient été tués par balles et une lors d'affrontements entre groupes rivaux. Selon Joshua Ossi, vice-président du Social Democratic Front, le SDF, principal parti d'opposition, dont le fief est Bamenda, ville anglophone réputée frondeuse. Aucune confirmation de ce bilan n'a pu être obtenue de sources indépendantes ni auprès des autorités. Le gouvernement a assuré être en train de rassembler les informations. Un calme précaire règne dans la ville. Lundi, de jeunes manifestants sont descendus dans les rues en marge d'une grève des enseignants anglophones qui avaient appelé le personnel scolaire et élèves à rester chez eux. Les manifestants ont brûlé des pneus et la police est intervenue pour les disperser. Les jeunes de Bamenda réclament l'instauration du fédéralisme au Cameroun et estiment que le délégué du gouvernement est un obstacle au développement de la ville.
Au Burkina Faso, les hôpitaux toujours paralysés par la grève du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, le plus puissant syndicat du personnel de santé du pays, pour exiger des augmentations de salaire et des indemnités. L'arrêt de travail d'une durée de 72 heures doit en principe prendre fin ce jeudi. Notre correspondant Issana Pon fait le point à Ouagadougou.
Les structures de santé publique avaient respecté le mot d'ordre de grève sans service minimum. Pour le ministre de la Santé, sorti en tournée pour constater la réalité, une rapide paix des braves est nécessaire, Dr Smaïla Ouedraogo.
Sur une plateforme de 63 points, 59 points ont fait l'objet d'accord. Il y a 4 points qui ont fait l'objet de désaccord. Alors donc, j'interpelle les uns et les autres. Donc, à savoir que nous sommes dans un secteur assez particulier, que le secteur de la santé, pour que les uns et les autres puissent mettre de l'eau dans leurs vins.
Ailleurs, heureusement, quelques rares centres de quartier fonctionnent à peu près mieux, comme le dispensaire du quartier Wemtenga, où nous rencontrons le responsable, Abdoulaye Tarnagda.
Nous sommes obligés justement d'organiser des services minimums pour ne serait-ce que prendre en charge les urgences. Puisque nous savons que cette grève, nous la faisons, c'est à notre corps défendant.
Une première journée de grève très suivie et pour l'instant, aucun signe qui puisse inciter à l'optimisme dans une atmosphère déjà pesante dans les centres de santé publique. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Zimbabwe, suspension ce mercredi des poursuites intentées contre 5 anciens combattants de la guerre d'indépendance. Ils avaient été accusés d'avoir sapé l'autorité du président Robert Mugabe en dénonçant ce qu'ils ont appelé ses méthodes dictatoriales. Le point avec Dili Diko.
Lors de la deuxième audience devant un tribunal d'Harare, le juge Osoa Mujaya a reproché au parquet ses demandes répétées de report des débats. Il a imposé au parquet de renouveler toute la procédure avant d'obtenir une nouvelle date d'audience. Le porte-parole de l'Association nationale des anciens combattants et 4 autres de ses responsables sont poursuivis pour avoir écrit en août un texte accusant le président de comportement dictatorial. Ils avaient aussi ajouté qu'ils ne soutiendraient pas une nouvelle candidature de Robert Mugabe à la présidence. Considérés comme des piliers du régime, les vétérans de la guerre d'indépendance ont publiquement manifesté leur défiance au président l'été dernier. Le pays, qui subit une grave crise économique, et se vont secouer par des manifestations contre Mugabe, qui, à 92 ans, est encore candidat à sa propre succession.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Politique aux États-Unis, le président élu Donald Trump a choisi la jeune gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, pour devenir la prochaine ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. Les détails avec Tatiana Mosso.
Nikki Haley, 44 ans, est la fille d'immigrés indiens. Étoile montante du Parti républicain, elle devient la première femme nommée dans son administration par Donald Trump. Elle va succéder à Samantha Power, actuelle ambassadrice américaine à l'ONU. Madame Haley avait soutenu dans un premier temps le candidat Marco Rubio pendant la primaire républicaine. Elle a toutefois souligné avoir voté pour Donald Trump à la présidentielle. La jeune femme a peu d'expérience en politique internationale, mais apporte une dose de diversité dans l'équipe du mania de l'immobilier. Nikki Haley a accédé à une certaine notoriété lorsque, gouverneure de Caroline du Sud, elle avait fait décrocher en juillet 2015 le drapeau confédéré, symbole de la ségrégation qui flottait depuis des années devant le Parlement de son État. Elle a été la première femme gouverneure de Caroline du Sud et aussi la plus jeune à la tête d'un État américain.
Politique américaine toujours, le revirement du président élu Donald Trump sur un certain nombre de ses positions continue de dominer l'actualité. Dans un entretien mardi avec des journalistes du New York Times, quotidien qu'il n'a cessé de critiquer, le prochain locataire de la Maison-Blanche a par exemple renoncé à l'idée de poursuite judiciaire contre sa rivale démocrate Hillary Clinton. Et il se dit maintenant ouvert à l'accord de Paris et reconnaît l'impact humain sur le changement climatique. Pour une analyse de ces changements d'opinion, Timothée Donnerma a joint le professeur Jim Caesar, enseignant de sciences politiques à l'Université de Virginie à Charlottesville.
Pendant la campagne, il a souvent changé de position, puisqu'il n'a pas vraiment une philosophie cohérente. Le fait qu'il change de position n'est pas surprenant. Quand même, je dirais que c'est un peu stratégique. Ça ne va pas toucher sa base de soutien, parce que la base de soutien n'est pas concerné avec les détails comme ça.
Quel poids accorder à ces prises d'opposition qui sont, ainsi que vous l'avez dit, stratégiques?
À mon avis, il y a des positions de fond qui sont les plus importantes pour se soutenir. Le fait, par exemple, qu'il veut limiter l'immigration. Alors ça, il ne peut pas changer cette idée-là. D'autres faits, l'idée de protéger le travail pour les Américains envers le libre-échange, ça c'est clé. Donc c'est les positions comme ça qui sont plus importantes que les autres, qui étaient un peu de divertissement même pendant sa campagne. Il ne faut pas prendre sérieux tous ces mots parce qu'il était différent dans ce sens-là. Il a parlé souvent en tant que comédien.
Les pays étrangers alliés des États-Unis ont suivi avec beaucoup d'inquiétude l'élection de M. Trump. Est-ce que ces changements de position vont atténuer leurs appréhensions?
Alors, à mon avis, oui. Dans ce sens-là, c'est bon pour la position des États-Unis. Le fait, par exemple, qu'il ait renoncé, selon l'interview, l'idée qu'il veut poursuivre l'utilisation des moyens extrêmes pour interroger les autres. Il a renoncé à ça. Ça, c'est important, même pour la politique intérieure. Le fait qu'il a dit peut-être qu'il va réétudier le fait du climat, le changement du climat, il n'a pas pris position ferme, mais il a dit qu'il est ouvert à d'autres arguments. Le fait qu'il ne va pas suivre une enquête contre Madame Clinton, ça va dire que peut-être la politique des États-Unis n'entre pas dans une période de très, très grand conflit. Donc ça va apaiser, je crois, les autres.
Le professeur Jim Caesar, enseignant de sciences politiques à l'Université de Virginie à Charlottesville, ici aux États-Unis. Conflit en Syrie, les quartiers rebelles d'Alep assiégés depuis plus de 4 mois sont toujours sous les bombes de l'armée syrienne et la communauté internationale semble résignée à voir la ville tomber dans sa totalité entre les mains du régime du président Bachar al-Assad, selon les experts. Et pour terminer, en Colombie, le nouvel accord de paix conclu avec la guérilla des FARC pour mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflits armés dans le pays sera signé demain jeudi à Bogota, la capitale. Près de 2 mois après le rejet de précédent texte par référendum, la cérémonie de signature de cet accord conclu le 12 novembre est prévue à partir de 16h, temps universel, ont indiqué dans un communiqué commun les négociateurs du gouvernement et de la guérilla Marxiste des FARC. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.